Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et bien depuis hier, nous sommes entrés dans cette période qu'on appelle le carême, qui dure 40 jours. Pourquoi l'Église a voulu cette période du carême? Oh, pour de nombreuses raisons, mais aussi pour nous faire imiter un petit peu Jésus. Vous savez que Jésus, après qu'il s'est fait baptiser par Saint Jean-Baptiste au bord du Jourdain, s'est retiré dans une montagne près de Jéricho, dans le désert de Juda, où rien ne pousse, il n'y a que du sable, de la pierre, de la roche, c'est tout. Il s'est retiré là 40 jours, sans manger et sans boire. Il y avait des animaux sauvages, des serpents de toutes sortes. Et pourquoi Jésus s'est retiré dans le désert 40 jours sans manger et sans boire? Jésus a voulu, avant de commencer la vie publique, avant de parcourir la Palestine et de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, le royaume des cieux. Alors l'Église a voulu imiter, en nous faisant passer par ce carême, avant de célébrer la fête de Pâques. Mais pour nous, c'est différent. Jésus, il a fait pénitence pour nous, pour attirer les grâces sur nos âmes, afin que nous puissions nous diriger vers Dieu, nous sanctifier. Tandis que nous, si nous faisons pénitence pendant ce carême, eh bien nous devons le faire tout d'abord parce que nous avons offensé le bon Dieu. Par nos péchés, nous avons fait de la peine à Jésus. Nous avons planté des épines dans sa tête, des clous dans ses mains. Voilà une des raisons pourquoi nous devons faire le carême. Eh bien, en faisant pénitence, comme nous dit la raison, vous avez peut-être fait attention à la belle oraison d'aujourd'hui, de la messe d'aujourd'hui. Les péchés ont offensé le bon Dieu, mais la pénitence, elle, a réjoui le bon Dieu, l'a consolé le bon Dieu. Peut-être vous étiez là hier soir, j'ai parlé des Ninivites, des habitants de Ninive. Les habitants de Ninive vivaient mal, buvaient beaucoup de vin, ils mangeaient des choses raffinées et beaucoup trop, ils vivaient mal. Alors un jour, le bon Dieu a dit à Jonas, qui était un prophète, « Jonas, tu vas à Ninive, tu vas parcourir la ville et tu vas dire que dans 40 jours, je détruirai la ville. » Oh, Jonas n'était pas très content, parce que ce n'est pas tellement intéressant d'aller dire aux gens qu'ils font le mal, mais il a dû aller. Alors il est quand même allé et il traverse toutes les rues de la ville en criant « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Alors les gens étaient effrayés. Pourquoi on sera détruit? Ben c'est normal, on vit comme des patachons, on commet le mal, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors tout le monde s'est dit, bien, on va se ressaisir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pénitence. Ils ont mis de la cendre sur la tête. Hier, c'était le mercredi des cendres, ça nous rappelle cet esprit de pénitence. Ils ont mis de la cendre sur la tête, ils ont mis des habits grossiers et ils se sont privés de nourriture et de boisson. Et, remarquez, autant ils avaient mis le bon Dieu en colère parce qu'ils faisaient des péchés, autant par leur pénitence, ils ont apaisé le cœur de Dieu et le bon Dieu a protégé la ville. Il a épargné la ville de ses châtiments prévus. Et la ville n'a pas été détruite. Eh bien voilà, vous comprenez que nos péchés ont offensé le bon Dieu. Oui. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi il a enduré la passion, la flagellation, le couronnement d'épines? À cause des péchés. S'il n'y avait pas eu de péché, Jésus ne serait pas mort. Il n'aurait pas dû subir toutes ces souffrances atroces. Voilà. Alors donc, par nos péchés, nous avons offensé le bon Dieu. Eh bien, par nos pénitences, nous consolerons le cœur du bon Dieu. Nous lui ferons plaisir. Et une autre raison pourquoi nous devons faire pénitence, c'est à cause du péché originel. Vous le savez, qu'est-ce qu'a fait le péché originel dans vos âmes? Vous voyez? Il a blessez vos âmes, c'est-à-dire que votre intelligence, elle a beaucoup plus de difficultés à comprendre la vérité. Votre volonté a beaucoup plus de difficultés à vouloir ce qui est bien. Alors il faut, par la pénitence, soigner ces blessures du péché originel. Alors certains auront comme blessure la gourmandise. C'est une blessure du péché, ça. Quelqu'un qui est gourmand, il veut manger que ce qui lui plaît. Il ne veut pas manger les légumes, il ne veut pas la soupe non plus. Ah, il veut que les desserts. Ah, ça, c'est de la gourmandise. Ou manger trop aussi de ce qui est bon. C'est une blessure de l'âme, ça. Ou d'autres, ce sera la paresse. Oh, le matin, on aime bien rester couché, on ne veut pas travailler, on aime mieux jouer. Ça, c'est aussi une blessure du péché originel. D'autres, ce sera le vol, prendre des choses qui appartiennent aux autres. Ça, c'est aussi une blessure du péché. Alors, il faut corriger cela, ces péchés, comment? Eh bien, par la pénitence. Quelqu'un qui est blessé par la gourmandise, comment il devra faire? Eh bien, justement, en se privant en partie de ce qu'il aime, par exemple, il y a un bon dîner là, oh, moi je mangerai tout le plat pour moi tout seul, eh bien on dit non, je prendrai moins. J'aimerais prendre plus, mais je vais prendre un petit peu moins, 2 cuillères en moins, parce que j'aime cela, pour faire pénitence. Eh bien, en faisant comme ça, petit à petit, vous vous guérissez de la gourmandise. Voyez ? Ou bien, celui qui est blessé, qui a le paresseux, il ne veut pas travailler à l'école, il ne veut pas apprendre ses leçons, il ne veut pas faire ses devoirs, il veut jouer, il ne veut pas étudier son catéchisme, il ne veut pas aider à la maison. Voilà, c'est une blessure. Alors comment il va faire s'il veut se guérir? Eh bien, il va faire juste le contraire. Je ne veux pas me lever, eh bien, je me lèverai, parce que je ne veux pas rester un paresseux. Les paresseux, ça ne fait rien de bon dans la vie. On n'en a pas besoin, des paresseux. Ou bien, je ne veux pas aider ma maman à faire la vaisselle. Eh bien, j'irai. Oui, je vais me guérir de cette blessure du péché originel. Je devrais faire ça par mortification, par pénitence. Il y a beaucoup d'occasions. Et vous avez tous une blessure du péché. On a tous une blessure du péché originel. Alors, il faut découvrir quelle est cette blessure. Quel est mon défaut? Ah, moi, je suis boudeur. Ah, voilà. Alors, il faut essayer de se corriger de ça. Vous voyez? Moi, j'accepte pas quand on me fait des remarques, quand on me dit quelque chose, ça, j'accepte pas, je boude, je vais dans un coin. Alors, il faut essayer de se corriger, c'est aussi une blessure du péché originel, ça. Alors, on fait juste le contraire. Quand on me dit quelque chose, eh bien, on accepte volontiers et on le fait tout de suite. Et moi, je suis désobéissant. Oh, j'aime pas obéir, je veux faire à ma volonté. Voilà, je sais ce que je veux et je veux faire comme je veux. Alors, pas que les autres viennent me commander. Ça, c'est aussi une blessure. Il y en a d'autres avant nous qui ont dit ça. Il y a le démon qui a dit ça, Lucifer. Non, je n'obéirai pas. Et il est devenu le pire des démons, parce qu'il n'a pas voulu obéir. Terrible obéissance. Et Adam et Ève, on ne veut pas obéir, non. Le bon Dieu nous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, là, défendu, mais on a quand même voulu. On n'a pas voulu obéir au bon Dieu, et ils sont devenus malheureux. Très malheureux. Ils ont été chassés du paradis terrestre où tout était agréable. Ils ont dû commencer à travailler à la sueur de leur front. Ils ont connu la maladie, les souffrances, la mort. Ils n'auraient pas connu tout cela s'ils avaient obéi au bon Dieu. Vous voyez ? Voilà. Eh bien, si vous êtes blessé par la désobéissance, alors il faut réagir. Eh bien, moi j'obéirai. Je ne veux pas écouter le diable qui, lui, veut me faire désobéir. Non, parce que le diable ne m'aime pas. Et il me conduira du mauvais côté, sur le mauvais chemin. Voilà. Voilà pourquoi le carême est là. Pour nous aider à faire pénitence, à réagir et à soigner nos blessures. Les blessures de nos âmes. Et on a plusieurs blessures, on n'en a pas qu'une, hein. Il y a certains qui sont désobéissants, qui sont menteurs, qui sont voleurs, qui sont paresseux, gourmands. Oh là là, ça fait comme plusieurs blessures. Alors il faut prendre la blessure, il faut commencer, on ne peut pas tout faire à la fois. Sinon, on ne s'en sort pas. Il faut prendre une seule blessure, un seul défaut. Et puis se dire, bien maintenant, tout le carême, je vais me corriger de ce défaut. Tous les jours. Alors le matin, quand vous faites votre prière du matin, il faut rajouter ça. Voilà, eh bien aujourd'hui, je vais m'appliquer, par exemple, à être obéissant. Voilà, Chaque fois que je n'ai pas envie d'obéir, eh bien j'obéirai. Par amour pour le bon Dieu. Et vous verrez, petit à petit, vous deviendrez obéissant et vous gagnerez. Vous serez les premiers gagnants d'avoir voulu obéir. Parce que ce que l'on vous commande, c'est pour votre bien. Vous ne connaissez pas tout, vous ne savez pas beaucoup de choses. Et ceux qui vous commandent en savent davantage. S'ils vous commandent, ils savent que c'est pour votre bien. Alors vous en serez profité, vous en profiterez. Voilà, entrez bien dans ce carême. Recherchez. Quelle est votre blessure la plus grande? Regardez bien dans votre âme. Demandez à votre ange gardien de vous aider à trouver quel est le défaut le plus grave, le plus important. Peut-être la paresse. Ou la distraction. Oh, moi, je suis toujours dans la lune. Je n'ai plus les pieds par terre. Je suis dans les nuages. Je n'écoute pas. Je ne suis pas. Je suis ailleurs. Je rêve. Bon, il faut que je m'en corrige. Si ça ne va pas, si je continue comme ça, ça n'ira jamais. Voilà. Alors, il faut guérir. Ça, c'est une blessure. On n'aime pas les blessures. Si vous vous faites du mal, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Si vous vous coupez la main ou un doigt, ou vous faites une blessure dans le doigt, elle soigne. Eh bien, c'est la même chose. Il ne faut pas laisser les blessures des âmes, parce qu'elles s'aggravent. Il y aura des infections. Et elles donneront la mort à vos âmes. Vous voyez? Si vous ne les soignez pas, vous serez conduit au péché mortel. Et après, c'est terrible, vous êtes coupé de Dieu. Si vous mourrez comme ça, vous tomberez en enfer. Pour toujours. Pas que pour une année, mais pour toute pour l'éternité. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous essayez de retrouver quelle est votre blessure la plus importante. Vous demanderez à votre ange de vous aider. Et puis, vous prenez une bonne décision. Maintenant, c'est décider. C'est quand même pas le démon qui commande chez moi. Ça ne peut pas continuer comme ça. On prend une bonne résolution. Et puis, tous les jours, vous combattez contre ce défaut. Et vous ferez un bon carême. Le bon Dieu vous récompensera la fête de Pâques. Tout ce qu'on fait pour lui, eh bien, il récompense. Les Ninivites ont fait pénitence et la ville a été protégée. Oui. Eh bien, vous aussi, ferez pénitence et le bon Dieu vous obtiendra une grâce. Peut-être qu'il vous corrigera d'un défaut, qu'il viendra lui-même soigner une de vos blessures et vous n'aurez plus ce défaut. Et les saints ont fait comme ça. Ils ont fait exactement cela. Et le bon Dieu les a récompensés de leurs efforts. Et vous demandera la Sainte Vierge. Elle va aussi vous aider. Une bonne maman qui n'a qu'un désir, c'est de soigner vos blessures. Que vous soyez en pleine santé, non seulement du corps, mais de votre âme surtout. Demandez-lui donc de vous obtenir la grâce, de prendre la décision, de lutter tous les jours. Chaque matin, vous vous rappelez, voilà, je vais lutter là contre. Tout le carême, le même défaut, la même blessure, tout le carême. Oui, demandez donc à la Sainte Vierge. Et puis, priez bien aussi, par la prière, vous arriverez à lutter contre ces blessures. Voilà, prier, c'est parler à Dieu, parler à la Sainte Vierge, lui demander. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si je vous posais la question suivante, pourquoi le bon Dieu vous a créé? Alors vous me diriez tout de suite, mais pour le louer, l'honorer, le servir et ainsi gagner la vie éternelle. Et ce serait juste. Mais il y a une autre réponse. Il y a une raison encore plus haute, plus profonde. Pourquoi Dieu vous a créé? Eh bien, si le bon Dieu vous a créé, c'est parce qu'il vous aime. Peut-être vous n'avez jamais essayé de penser à cela, que le bon Dieu a créé chacun de nous parce qu'il nous aime. Et chacun, on peut se dire, le bon Dieu m'a créé, moi, personnellement, parce qu'il m'aime. Il m'a choisi parmi des milliers d'autres êtres qu'il aurait pu créer à ma place. Mais il m'a créé moi et pas tous ces milliers d'autres êtres qu'il aurait pu créer. Et pourquoi il m'a créé? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut mon bonheur. Qu'est-ce que c'est que aimer? Si on vous demandait qu'est-ce que c'est que aimer, eh bien, c'est pas difficile à comprendre. vous aimez vos parents. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour aimer vos parents? Eh bien, vous pensez à vos parents dans votre journée. Vous pensez à votre papa qui est parti le matin travailler pour pouvoir vous nourrir, pour pouvoir vous vêtir, pour pouvoir subvenir à tout ce que vous avez besoin. Vous pensez à votre maman qui est à la maison, qui fait le ménage, qui fait tout ce qui est nécessaire pour que l'appartement, la maison soit propre, qui répare vos habits. Voilà, vous aimez à penser à eux parce que vous les aimez. Et aussi, vous leur avez déjà dit, bien souvent, et vous leur dites encore que vous les aimez. « Oh maman, oh papa, je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. » Voilà. Et puis, quand vous rentrez à la maison et que vous dites à vos parents que vous les aimez, puis si vos parents vous disent « Est-ce que tu voudrais pas mettre la table ?»« oh oui, tout volontiers, je le mets. » Pourquoi vous faites cela? Parce que vous l'aimez. Vous les aimez, vos parents. Eh bien, voyez, le bon Dieu vous aime. C'est-à-dire que le bon Dieu pense à vous. Il ne vous oublie pas. Il vous voit, il pense à vous. Non seulement il pense à vous, mais il vous a comblé de bienfaits. Il vous a donné une bonne santé. Il vous donne à manger tous les jours. Il fait pousser les blés. Il fait pousser tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre. Il fait pousser le coton. Il fait pousser, il fait vivre toute la nature. Il fait lever le soleil. Si le soleil ne se levait plus, au bout de très peu de temps, on ne pourrait plus vivre. Vous voyez ? Tout ce que le bon Dieu fait pour vous. Donc le bon Dieu pense à chacun de nous, personnellement. Est-ce qu'il faut y penser à cela ? Le bon Dieu me voit et il pense à moi parce qu'il m'aime. Le bon Dieu, donc, pense à vous, vous donne tout ce qui est nécessaire. Mais non seulement cela, le bon Dieu vous aime tellement qu'il veut venir en chacun de nous. Il veut être avec nous. Il veut vivre avec nous. Voyez, quand vous aimez quelqu'un, si vous aimez vos parents, vous aimez être avec eux. Si vous avez un ami que vous aimez beaucoup, vous aimez aller le trouver. Vous aimez être avec lui. Eh bien, le bon Dieu, c'est la même chose. Comme il nous aime, il veut être avec nous. Et c'est ça. Voyez, quand il a créé Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève avec la grâce sanctifiante. Et donc Dieu vivait en Adam et Ève. Et vous connaissez la triste histoire d'Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu et qui ont obéi aux démons. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont éloignés de Dieu. Voyez, voilà ce qui est le plus grave, c'est le péché. Le péché, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous couper de Dieu, il vient nous éloigner de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. C'est ce qui est arrivé aux mauvais anges. Vous savez que Dieu n'a créé que des bons anges, il n'a pas créé des démons. Les démons, ce sont de bons anges qui sont devenus démons, encore une fois, parce que Dieu les aimait beaucoup, les avait créés, parce qu'il les aimait, et qu'il voulait leur offrir le beau ciel, voyez, dans lequel ils auraient contemplé la merveille de Dieu. Et une partie des anges ont dit « Non, nous n'obéirons pas, nous ne voulons pas servir ». Et ils n'aimaient pas Dieu, ceux-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été coupés de Dieu. Terrible. Maintenant, ils ont compris ce que c'est que d'être coupés de Dieu. Ils souffrent terriblement. Ils seraient d'accord. Les démons seraient d'accord. C'est ce qu'un des démons a dit une fois par la bouche d'un possédé, il serait d'accord de rompre, de romper pendant 1000 années sur des pointes de couteau rougies au feu, donc il serait déchiré, il souffrirait terriblement, il serait d'accord de rompre pendant 1000 années, c'est pas rien, c'est pas pendant 15 jours, c'est 1000 ans, sur des pointes de couteau rougies au feu, que pour voir 5 minutes Dieu. Seulement pour voir 5 minutes Dieu, il serait d'accord de souffrir tout cela, et après il retournerait en enfer. Vous voyez ce que c'est terrible d'être coupé de Dieu. Eh bien nous aussi, Dieu nous aime, Dieu nous a donné la grâce sanctifiante, il vient habiter en nous, nous sommes unis à Dieu, nous sommes rattachés à Dieu par la grâce sanctifiante, mais nous pouvons nous couper aussi de Dieu par le péché. Bien sûr, il y a des péchés véniels qui ne nous coupent pas totalement de Dieu, mais le péché véniel, il conduit au péché mortel qui, lui, nous coupe totalement de Dieu. Et celui qui meurt dans cet état-là, il ne verra jamais Dieu. Voyez ? Alors retenez ceci. La chose la plus grave sur cette terre, ce n'est pas la guerre. Même la guerre mondiale, même un tremblement de terre qui engloutirait toute la ville de Sion, ce n'est pas pire qu'un seul péché. Parce que le péché nous coupe de Dieu. Celui qui commet un péché, il refuse l'amour de Dieu. Quand on aime quelqu'un, comme je vous le disais, on est tout content de faire ce qu'il désire, ce qu'il veut. Et si on aime Dieu, on est heureux de faire ce qu'il veut. Eh bien, celui qui ne veut pas faire ce que Dieu veut, il n'aime pas Dieu et il se coupe de Dieu. Et si vous remarquez, quel a été le péché des démons ? Lucifer, vous avez entendu parler de lui. Lucifer était le plus beau de tous les anges que Dieu avait créés. Parmi les anges, il y en a des plus beaux et des moins beaux. Hein ? Ils sont tous beaux, mais il y en a ceux qui sont encore... Il y a des degrés différents. Il y a ceux qui sont plus beaux. Eh bien, Lucifer, c'était le plus bel ange de tous les anges, de tous les archanges, de tous. C'était le plus bel, le plus beau. Eh bien, il n'a pas voulu obéir. Non, je ne servirai pas, je ne veux pas obéir à Dieu. Voilà. Regardez quel a été le péché d'Adam et Ève. Encore un péché de désobéissance. Le bon Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits du paradis, mais pas de celui de l'arbre qui se trouve au milieu du paradis terrestre, qui est l'arbre de la science du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas. Si vous en mangez, vous mourrez de mort. Vous mourrez. Et ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils ont obéi au menteur, au démon qui est un menteur. Voyez, encore un péché de désobéissance. Comprenez la gravité du péché de désobéissance. Oui. Et si vous remarquez aussi, Jésus a dit souvent quand il est venu, hein, il est venu pour obéir à son Père du ciel. Voilà. Il est venu réparer le péché de désobéissance par la vertu d'obéissance. Et ça lui a coûté. C'était pas agréable d'endurer cette passion. Et le bon Dieu, Dieu le Père, a prévu que c'était ainsi qu'il réparerait le monde par la flagellation, par la passion, par le couronnement d'épines, par la crucifixion. C'était des douleurs terribles. Hein. Il aurait bien voulu y échapper, mais il a voulu obéir. Il a dit, puisque mon Père du ciel a prévu ainsi, eh bien, je veux volontiers faire ce qu'il veut, parce que je l'aime. Voyez ? Dieu le Fils aime Dieu le Père. d'un amour infini. Voilà. Eh bien, nous aussi, sachant que Dieu nous aime et que nous devons l'aimer. Et quel bonheur c'est pour nous d'aimer quelqu'un de si grand, de si bon, de si merveilleux. Voyez ? Voilà. Eh bien, nous demanderons la grâce à la Sainte Vierge d'être toujours maintenant obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant aux représentants de Dieu. Et pour vous, les représentants de Dieu, ce sont vos parents. Ce que vos parents vous commandent, c'est Dieu qui vous le commande. Voyez ? Alors voilà. Vous demanderez cette grâce pendant ce carême que vous deveniez bien obéissant. Et alors vous aimerez vraiment le bon Dieu. Vous aimerez vraiment vos parents. Ce sera la manière de prouver que vous les aimez. Et vous demanderez cela à la Sainte Vierge, elle qui a toujours été obéissante au bon Dieu et à ses parents, est un modèle d'obéissance. Jamais, jamais la Sainte Vierge n'a désobéi à son papa et à sa maman. Jamais. Pas une seule fois. Oui. Voilà. Alors vous vous appliquerez spécialement à cette vertu d'obéissance. Et alors, le bon Dieu vous aimera encore davantage, parce que le bon Dieu, il a des préférés. Oui, vous voyez, parmi les apôtres, il avait des préférés, Pierre, Jacques et Jean. Eh bien, vous aussi, si vous serez toujours bien obéissant à Dieu et à ceux qui représentent Dieu, vos supérieurs, vos parents, votre instituteur, vous voyez, ce sont les représentants de Dieu pour vous. Alors, en leur obéissant, vous obéirez à Dieu et Dieu vous aimera encore davantage. Vous demanderez ça à la Sainte Vierge et à l'occasion de cette Sainte Messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peut-être que vous vous êtes demandé quel saint on peut bien fêter aujourd'hui puisque le prêtre est revêtu des habits rouges. Peut-être que c'est un martyr. Et si vous avez regardé l'ordo, vous avez vu qu'il n'y avait pas de saint pour aujourd'hui. Il y a quand même un saint, bien sûr, mais on ne le célèbre pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Philippe Néri. Cependant, comme nous avons célébré une grande fête dimanche, c'était la fête de la Pentecôte. Et je vous avais déjà dit, il y a plusieurs fêtes dans l'année qui sont si importantes que on célèbre cette fête encore toute la semaine qui suit. La fête de Noël, c'est une grande fête, donc on appelle l'octave. Hein. L'octave, ça veut dire que pendant 8 jours, on célèbre cette fête. Et puis la fête de Pâques aussi, elle a une octave. Et la fête de la Pentecôte, voilà. Ce sont les principales fêtes qui ont encore l'octave. Autrefois, il y en avait davantage. Ça veut dire que ces fêtes sont si importantes pour l'Église que l'Église veut nous garder dans cet esprit, dans cette fête. Vous savez tout ce qui c'est le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Vous avez entendu parler de ce qu'a fait le Saint-Esprit le jour où il est descendu sur les apôtres qui étaient réunis au Cénacle. Les apôtres qui étaient peureux, les apôtres qui étaient ignorants. Ils n'avaient pas tout retenu ce que Jésus leur avait enseigné. Pourtant, Jésus leur a enseigné pendant 3 années beaucoup de choses, mais ils n'ont pas retenu tout. Alors Jésus leur a dit, eh bien, maintenant vous allez au Cénacle, et puis je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous fera tout comprendre. Et ça a été fait, ça a été ainsi. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, ils ont tout compris. Alors ils sont sortis, ils ont prêché partout, et ils ont tellement bien prêché qu'il y a des quantités qui se sont fait baptiser. Le premier jour, il y a eu 3 000. Dans les comptes, ça fait beaucoup, 3 000. Qui ont dit, ben nous, on va se faire, nous, des adorateurs du vrai Dieu, on veut vous suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chrétien? Alors, Saint-Pierre leur a dit, ben, il faut vous faire baptiser. Voilà. Mais si vous voulez être baptisé, il faut croire en Jésus-Christ. Mais oui, nous croyons en Jésus-Christ. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, celui qui a été annoncé par les prophètes, celui qui est le Fils de Dieu, venu sur la terre pour nous racheter. Alors, ils ont pu se faire baptiser. 3 000. Et plusieurs jours après, 5 000. Ça faisait déjà 8 000. Et puis, ça a été ainsi de suite. Voilà, la puissance du Saint-Esprit qui allait transformer ses apôtres. Alors aujourd'hui,
Est-ce que le Saint-Esprit est nécessaire aujourd'hui? Eh oui, il est nécessaire. Plus que jamais, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire en nous? Est-ce qu'il va nous faire des miracles comme aux apôtres? Eh non, peut-être quelques saints, mais ce n'est pas l'habitude maintenant, ce n'est plus normal, ce n'est pas la coutume. Au début, c'était nécessaire pour aider les gens à croire ce que les apôtres leur enseignaient. Mais maintenant, nous avons tellement une longue histoire de l'Église derrière nous que ça nous suffit pour voir que c'est l'Église de Jésus-Christ qui a fait des merveilles, qui a opéré des merveilles, qui a transformé les populations, les nations païennes, qui étaient des barbares et qui sont devenus des chrétiens fervents, voyez, en pratiquant les vertus. Mais pour nous, le Saint-Esprit, nous le recevons. Vous l'avez déjà reçu au baptême. Qu'est-ce qu'il est venu vous donner, le Saint-Esprit, au baptême? Il est venu vous donner la vie surnaturelle. Voilà. Il vous a fait de vous des chrétiens. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Eh bien, la vie chrétienne, c'est celui qui a la vie surnaturelle. Il faut avoir la vie surnaturelle pour vivre de la vie chrétienne. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui nous a communiqué cette vie surnaturelle au baptême. Mais ce n'est pas tout. Certains d'entre vous, peut-être pas tous, vous avez été confirmés. Le jour de la Pentecôte, vous avez reçu un sacrement qu'on appelle la confirmation. Alors là, il vous donne, d'une façon plus complète, le Saint-Esprit. Voilà. Avec tous ses dons. Voilà. Vous devenez comme des adultes dans la vie chrétienne. Voyez. Vous devenez comme des adultes dans la vie chrétienne. Alors, il vous donne 7 dons. Vous avez appris les 7 dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça fait, ces dons, en nous? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image pour nous faire comprendre? Qu'est-ce que font les dons dans notre âme? Ceux qui se sont préparés à la confirmation, vous l'avez appris. On compare ces dons comme les voiles d'un bateau. Vous savez, vous avez déjà tous été au bord du lac, vous avez vu ces bateaux, il y a plusieurs sortes de bateaux. Il y a des bateaux qui ont un petit moteur, une hélice, c'est bien pratique. Il y a des bateaux où il faut ramer, ça avance, mais avec beaucoup d'efforts, il faut transpirer, c'est pas facile, mais on avance quand même. Et puis il y a des bateaux qui n'ont pas de moteur, et on n'a pas besoin de ramer. Alors les hommes ont pensé, eh bien on va mettre des grands voiles. C'est des grandes surfaces de tissu, et avec ça, quand le vent souffle, on va diriger la voile pour que le vent souffle dedans la voile, et hop, elle pousse le bateau, et on n'a pas besoin de ramer. Ça va tout seul. C'est formidable. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. C'est un peu c'est l'image des dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu nous donner ses dons, il est comme venu mettre 7 voiles en nous, hein? Et puis, il va souffler dans ses voiles. Et alors, c'est beaucoup plus facile. Quelles sont ces 7 voiles que le Saint-Esprit a mis en nous? Alors, lequel premier don, c'est la sagesse. La sagesse. Qu'est-ce que ça va nous faire, la sagesse? La sagesse, c'est une vertu, c'est un don qui va nous aider à savoir choisir ce qu'il faut pour aller d'une façon plus sûre au ciel. Il y a tellement de choses qui nous sont proposées. Eh bien, la vertu de sagesse, le don de sagesse, va nous aider à dire, oui, ça m'est utile pour aller plus sûrement au ciel. Voilà. Et alors, le Saint-Esprit va nous aider. Au lieu de faire des recherches compliquées, le Saint-Esprit va nous dire, mais ça, tu vois, ça, c'est pour aller plus facilement au ciel. Alors, celui qui désire aller au ciel, il va dire, ben voilà, je fais ça. Comme le Saint-Esprit m'inspire. Vous voyez? Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on peut empêcher le Saint-Esprit. Vous voyez, des fois, le Saint-Esprit nous donne des bonnes pensées. Il nous dit, tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Il nous aide à faire le bien et à ne pas faire le mal. Mais, des fois, il y en a ceux qui disent, ah, moi, je ne veux pas faire le bien. Non, je ne veux pas rendre service, je ne veux pas m'appliquer à étudier, tout ça. Mais je veux faire ça, ça me fait plus plaisir. Alors, il dit non au Saint-Esprit. Alors, c'est comme s'il ferme la voile. Et puis, le vent, il souffle à côté, mais le bateau, il n'avance pas. Vous voyez? Voilà. Alors, il faut toujours être attentif à ce que le Saint-Esprit nous inspire, car c'est toujours pour le bien. Vous voyez? Et puis, un autre don, c'est le don d'intelligence. L'intelligence qui nous fait comprendre les choses. les choses de la terre aussi, mais les choses de Dieu surtout, l'intelligence des choses de Dieu. Voilà. On a déjà beaucoup de difficultés à comprendre les choses à cause que notre intelligence était blessée par le péché originel. Eh bien, le Saint-Esprit va justement guérir un peu nos blessures et nous aider. Voilà, ce sera plus facile, il n'y aura pas besoin de ramer. Ce sera le Saint-Esprit qui nous donnera ce don d'intelligence, voyez. Et puis tous les autres dons. Le don de piété aussi, qui nous aidera à prier avec plus de recueillement, avec plus d'application, plus d'attention, voyez. Le don de crainte de Dieu aussi. Oui, Dieu, il faut craindre d'offenser le bon Dieu. Voyez, si on craint Dieu, on fera pas de péché. Ou au moins, en tout cas, pas de péché volontaire, voyez. On craint d'offenser ce bon Dieu qu'on aime. Voyez, tous ces dons. Eh bien, ça va nous aider. Alors, il faut être attentif aux inspirations que le Saint-Esprit va nous donner. Si l'on est attentif, alors le Saint-Esprit va nous conduire sur le chemin du ciel. Il va nous sanctifier. C'est lui qui va faire de nous des saints. Comment tous les saints du ciel sont arrivés à devenir des saints? Grâce au Saint-Esprit. Alors, vous voulez devenir des saints? Eh bien, ayez une dévotion au Saint-Esprit. Et puis, demandez au Saint-Esprit, donc déjà, de vous éclairer et ne refusez pas. Vous savez, quand on fait le catéchisme, il y a toujours, on fait la prière au Saint-Esprit. Justement, c'est celui-là, on lui demande d'éclairer nos intelligences, nous donner le don d'intelligence, don de sagesse, tous les dons. Voilà, le don de... pour mieux comprendre les choses de Dieu, mieux aimer Dieu, et puis ainsi s'assurer d'aller au ciel, voyez. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, jusqu'à samedi, nous allons tout spécialement prier le Saint-Esprit et nous allons demander à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle a toujours été fidèle. Car le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'est-ce qu'il voulait d'elle. Elle a toujours dit oui. Et pourtant, quelquefois, c'était pas toujours agréable. Hein. Vous savez, elle savait que quelquefois, le bon Saint-Esprit lui demandait quelque chose de pénible, qui lui coûtait des efforts, elle devait se renoncer. Elle ne pouvait pas faire toujours ce qu'elle voulait, mais comme elle aimait tellement le bon Dieu, le Saint-Esprit l'avait fait qu'elle aimait tellement le bon Dieu qu'elle disait toujours oui. Alors je vais demander aussi à la Sainte Vierge eh bien, de nous aider à toujours dire oui au Saint-Esprit, à jamais refuser. Quand le Saint-Esprit nous donne une pensée de faire le bien, à le faire, même si ça ne nous fait pas plaisir. Quand le Saint-Esprit nous dit ça, il ne faut pas faire, c'est mal, eh bien, à savoir avoir assez de force, que le Saint-Esprit nous donne assez de force pour dire non. Ça, on ne fera pas, ça déplaît au bon Dieu, ça fait de la peine au bon Dieu, et on ne le fera pas, car on aime trop le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si vous avez fait un peu attention, vous aurez pu remarquer que la messe d'aujourd'hui, c'est la même messe que le jour de l'Épiphanie. Alors, est-ce que le prêtre s'est peut-être trompé? Eh bien, non. Pourquoi, aujourd'hui, on a dit la même messe que le jour de l'Épiphanie? L'Épiphanie, c'était le 6, et aujourd'hui, nous sommes le 10. Eh bien, parce que l'Église veut nous garder dans ce mystère de Noël le plus longtemps possible. Et elle veut nous faire contempler la crèche et tout ce qui s'est déroulé autour de la crèche. Et c'est pourquoi elle a fixé pendant 8 jours ce qu'on appelle une octave. Pendant 8 jours, nous continuons de rester dans le mystère de la fête de l'Épiphanie. Nous faire contempler ces rois mages. Et ce n'est pas rien. C'est un grand mystère, c'est une très belle leçon que nous donnent les rois mages. Épiphanie, ça veut dire que Jésus s'est manifesté. C'est un mot qui vient du grec, qui veut dire qu'il s'est manifesté, la manifestation. Il s'est manifesté aux rois mages, aux païens. Les rois mages habitaient en Orient, comme nous dit l'Écriture, vers le Tibre et l'Euphrate, ces deux grands fleuves, près de Babylone, en Chaldée, d'où était venu Abraham. On disait qu'ils étaient des mages parce qu'on donnait ce nom de mage aux sages, à ceux qui étaient sages et savants.
Ce n'étaient pas des magiciens, mais des mages, ceux qui avaient la sagesse. Et eux, ils étaient spécialement intéressés par la connaissance des astres. Ils aimaient cette science qu'on appelle l'astrologie. Alors ils contemplaient, ils connaissaient les noms, on avait donné des noms aux étoiles. Vous en connaissez certainement, la grande ours, la petite ours, l'étoile du berger, quelques étoiles vous connaissez. Eh bien, ils donnaient des noms aux étoiles et ils aimaient regarder toutes ces étoiles. Et ils en parlaient entre eux, ils approfondissaient, ils regardaient s'ils découvrent des nouvelles étoiles. Et voilà qu'un beau jour, ils voient une nouvelle étoile. Cela, on ne la connaît pas. Tiens, mais elle n'est pas tellement loin, elle est beaucoup plus proche que les autres, elle est plus grande que les autres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle éclaire même le jour. Qu'est-ce que ça veut donc bien dire, cela? Et un de ces rois mages leur dit, « Ça me dit quelque chose. Il y a très longtemps, le peuple hébreu avait été emmené en captivité à Babylone. Oh, ça faisait déjà des centaines d'années. Et lorsqu'ils étaient là, eh bien, ils disaient qu'ils avaient des prophéties. Ils avaient un livre dans lequel étaient contenues des prophéties. Et parmi ces prophéties, une disait qu'un jour, une étoile viendrait annoncer ce Messie. Est-ce que ce serait peut-être cette étoile? Mais quelle époque? Alors ils ont même précisé l'époque. Il y avait tant de semaines d'années depuis la reconstruction du temple de Jérusalem, et donc, vous savez que le temple de Jérusalem avait été détruit lorsque les Juifs ont été emmenés en captivité à Babylone par les ennemis, par les Babyloniens. Et quand ils ont quitté la Babylone pour venir dans le pays, ils ont reconstruit le temple. Donc, ils savaient à peu près l'époque. Ils disent, bien, nous ne sommes pas loin de cette époque, est-ce que ce serait peut-être cela? Et bien sûr, ils ont su la voix de leur conscience, qui leur disait, mais oui, c'est ça. Alors il faut, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, on va y aller, on va aller voir ce qui se passe. On va suivre cette étoile, elle a l'air de se déplacer lentement. On va la suivre, peut-être nous conduira-t-elle au lieu où l'enfant est né. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris quelques bagages, 2-3 chameaux, ils ont chargé ça dessus, quelques mulets, et puis ils sont partis. En voyage. Mais combien de temps ce voyage devait-il durer? Ils ne savaient pas. Où est-ce que cet enfant naîtrait? Certainement en Terre Sainte, puisque c'est le peuple de Dieu. Alors ils ont suivi l'étoile, et ils ont dû marcher pendant longtemps, bien des jours. Vous voyez, s'il fallait 3 jours à peu près depuis Nazareth jusqu'à Bethléem, eux qui venaient de bien plus loin, il fallait bien plus que 3 jours. Il fallait des semaines de marche. Et ils ont continué donc en suivant l'étoile, et le jour, ils voyaient encore l'étoile, ils pouvaient suivre l'étoile même le jour. Fait extraordinaire, donc ce n'était pas une étoile comme les autres, parce que les autres, on ne les voit pas le jour. Et ils sont arrivés, bien sûr, cette étoile les a amenés à Jérusalem. Alors quand ils ont vu cette ville de Jérusalem, avec ses grands murs, ses remparts, le grand temple de Salomon qui avait été rebâti, alors ils ont été émerveillés. Et bien voilà, la grande ville du peuple hébreu, et bien c'est là. Et d'ailleurs, l'étoile, quand elle est arrivée sur la ville, elle a disparu. Alors, plein de joie, ça y est, nous sommes arrivés. Alors, ils sont descendus, il y a une petite vallée, hein, la vallée, ils étaient arrivés vers le mont des Oliviers, ils sont descendus de la vallée, et sont remontés sur Jérusalem. Arrivés dans la ville, tout le monde les regardait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il donc? De voir arriver des rois en chameaux, majestueux, avec toute leur cour, enfin, avec des serviteurs qui les suivaient. Alors les rois, tout empressés, dès qu'ils ont vu un premier passant, ont dit, « Dites-nous, où est donc ce nouveau roi qui est né ?»« Mais pas de nouveau roi qui est né. »« Mais si, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ils étaient très sûrs. « Mais vous vous trompez ?» Mais ce n'est pas ici, ici n'y a pas. Ici, le roi Hérode est roi depuis 36 ans et il n'a pas d'enfant nouveau-né. Certainement, monsieur, vous devez vous tromper.
Alors le roi, très surpris, se regarde. Mais est-ce qu'on se trompe?
Mais non, pourtant l'étoile est arrivée sur cette ville. Ça doit être ici. Alors il voit un autre. Est-ce que le roi, nouveau roi n'est pas né ici?
Oh, nous ne connaissons pas.
Mais bien sûr, dans une ville, vous savez, tout se dit. Alors les gens se disaient entre eux, il y a des rois qui sont arrivés partout, on allait le dire, dans les maisons, partout où il y avait des gens, dans les cours, dans les places publiques. Des rois sont arrivés, soi-disant qu'ils viennent adorer le roi, un nouveau roi qui est né et qui sera le Messie. Ben, personne n'était au courant. Et tous ces bruits sont arrivés jusqu'au roi Hérode. Le roi Hérode, un peu surpris, qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout troublé. Alors il dit, mais il fait venir les princes des prêtres, les scribes, les pharisiens. Ça, c'était ceux qui étaient les docteurs de la loi. Donc, qui scrutaient, qui étudiaient les Écritures, puis qui les enseignaient au peuple. Alors il les fait convoquer au palais d'Hérode, et leur dit, écoutez, voilà ce qui se passe, des rois sont arrivés dans notre ville, et ils disent qu'ils ont vu une étoile qui leur enseigne que le Messie est né. Ils viennent d'ailleurs pour l'adorer. Est-ce que vous savez où il se trouve?
Bon, alors ils regardent, et ils disent, oui, les Écritures disent bien quelque chose.
Ah, il y en a un, tiens, le prophète Michée nous dit qu'il doit naître à Bethléem, parce qu'il parle de Bethléem en disant que Bethléem n'est pas la plus petite ville de Juda. Alors certainement qu'il doit naître là. Bon, alors il renvoie tous ces gens et il fait venir les rois mages. Puis il leur dit, écoutez, l'enfant doit naître à Bethléem, c'est pas ici, bien sûr, ici c'est la grande ville, mais il doit naître à Bethléem, il viendra après dans cette ville. Écoutez, allez là-bas, à Bethléem, cherchez-le, allez, rendre l'hommage que vous voulez lui rendre, et après venez m'avertir, afin que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, il avait d'autres pensées derrière la tête. Hein. Le roi Hérode, il était jaloux, il s'est dit, ça y est, un roi va venir, et je ne serai plus roi, moi, rien à faire, je veux être roi, et je vais le tuer. Alors je vais demander qu'ils aillent le voir, puis comme ça, quand ils me diront où il se trouve, j'irai avec mes soldats et je le tuerai. Voilà quelle était la pensée du roi Hérode. Alors les rois mages, tout heureux de savoir où devait naître l'enfant, sont repartis, ils ont pris les chameaux et ils ont quitté la ville de Jérusalem. On leur dit, voilà, Bethléem, c'est ce chemin-là. Vous voyez, vous suivez là, vous montez, hop, c'est pas très loin, mais vous trouverez. Et ils sont partis. Et en sortant de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils voient de nouveau? L'étoile. L'étoile qui leur apparaît. Alors, heureux, ils continuent. Et l'étoile les mène jusqu'à Bethléem. Tout petit village. C'est un tout petit village. Un peu sur les hauteurs. Et ils arrivent vers le village. Et voilà que l'étoile s'arrête sur le lieu où l'enfant est né. Alors, ils pensaient voir un autre palais. Un roi. En général, un roi naît dans un palais. Et quoi? Le roi des rois, celui qu'une étoile est venue annoncer, est dans une pauvre demeure, sans rien. Bien sûr, puisque Marie et Joseph étaient venus à Bethléem pour être recensés, ils n'avaient rien emporté avec eux, ils n'avaient pas de maison là. Ils n'avaient rien du tout avec eux. Alors ils étaient très surpris. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cela? Alors qu'il aurait pu naître à Jérusalem, dans cette grande ville, la ville des rois, comment était-il donc né là? Mais enfin, l'étoile s'était arrêtée là, c'était bien ça. Et ils sont allés donc auprès de l'enfant Jésus. Quand ils ont vu l'enfant, tout petit enfant, enveloppé de l'ange, comme les autres, mais un bel enfant, alors ils l'ont adoré. Comment ces grands rois, habillés avec grande richesse, se sont mis à genoux devant un petit enfant? Est-ce possible? Eh oui, c'est que ces rois avaient la foi. Ils avaient cru à la prophétie de Michée, ils ont cru à l'étoile, et ils ont reconnu dans cet enfant le roi des rois. Ils l'ont adoré. Une grande leçon pour nous, mes bien chers, fidèles. Ils se sont mis à genoux devant ce petit enfant. eux, ces grands du monde, voyez, apprenant des rois mages à avoir une grande foi et que cette foi nous porte à adorer Dieu comme il mérite que nous l'adorions. Alors ils ont offert des cadeaux, nous dit la Sainte Écriture, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Roi Gaspard a offert de l'or pour manifester que cet enfant est un roi. L'or, c'est les cadeaux que l'on fait au roi. Eh bien, il a présenté l'or à cet enfant pour montrer qu'il le reconnaissait comme roi, roi des rois. Et en effet, Jésus est le roi des rois. Ensuite, Melchior lui a présenté l'encens pour manifester que cet enfant est Dieu, que c'est un enfant Dieu. L'encens, c'est ce que l'on offre à Dieu. Et Balthazar, le roi noir, eh bien lui a présenté la myrrhe pour montrer que cet enfant aussi un jour devait mourir et que c'est par cette mort qu'il nous rachètera, qu'il nous sauvera, qu'il fera l'office de Messie. Voilà les dons. Eh bien, ces dons, mes bien chers enfants, vous pouvez les offrir vous aussi. Vous pouvez offrir à l'enfant Jésus de l'or, vous pouvez offrir de l'encens et de la myrrhe, mais de l'or plus précieux que le vrai or. Qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir comme or plus précieux que de l'or? Eh bien, l'or plus précieux que le vrai or, c'est la charité. Voilà, votre amour du bon Dieu et votre amour du prochain. Ce sera de l'or que Jésus aimera mieux que du vrai or. Voilà l'or que vous pouvez offrir à l'enfant Jésus. Et l'encens, qu'est-ce que ce sera l'encens que vous pourrez offrir à l'enfant Jésus? L'encens, c'est votre piété, votre ferveur, votre dévotion, l'application que vous vous mettrez dans la prière. Ce sera l'encens que vous offrirez au bon Dieu et est bien plus précieux que l'encens matériel. Et la myrrhe, vous pouvez aussi offrir la myrrhe à l'enfant Jésus. Qu'est-ce que ce sera la myrrhe? Ce sera votre esprit de sacrifice. Tous les sacrifices que vous ferez pour Jésus, ce sera la myrrhe. Eh bien, les croisés, vous faites tous les jours des sacrifices, eh bien, ce sera chaque fois de la myrrhe que vous offrirez à l'enfant Jésus. Alors vous penserez, faites donc comme les rois mages, offrez des cadeaux à Jésus. L'or, l'encens et la myrrhe. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours et plusieurs fois par jour. L'or, l'amour que vous aurez pour Dieu. L'encens, la piété, la ferveur, le recueillement, les prières bien faites, recueillies. Et la myrrhe, votre sacrifice. Faites des petits sacrifices pour Jésus. Ce sera beaucoup plus beau que les trésors que les rois mages ont offert à Jésus. Mais les rois mages ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais aussi la charité, ils aimaient le bon Dieu. Et puis, la prière, ils ont adoré Jésus avec tout le recueillement possible. Ils ont parlé à l'enfant Jésus avec beaucoup de vénération, voyez. Et puis, ils ont fait des sacrifices, c'était pas rien de quitter tout. Leur royaume, leur palais, leur famille, ils ont tout quitté pour aller adorer l'enfant Jésus. Alors, un grand sacrifice, ils ont apporté aussi ces trésors de l'âme. Voilà, et bien demandez à la Sainte Vierge qui a vu venir les rois mages. Elle était là quand les rois mages sont venus. Demandez à la Sainte Vierge de vous aider à présenter toujours ces cadeaux à l'enfant Jésus. À adorer l'enfant Jésus profondément. Quand vous faites vos génuflexions, faites bien vos génuflexions. Vous entrez à l'église, prenez l'eau bénite, faites un beau signe de la croix. Ça, c'est toujours des gestes que vous faites pour le bon Dieu. Et faites pas comme un chasse-mouche, voyez, un beau signe de la croix, le beau signe du chrétien. Ensuite, vous avancez dans l'allée, faites un beau signe, une belle génuflexion. Voilà, adorez Dieu présent. Le même Dieu que les rois mages ont adoré, il est dans le tabernacle. Il vous regarde. Quand vous priez, priez avec ferveur, recueillement, attention. Voilà, demandez ça à la Sainte Vierge, qu'aujourd'hui elle vous accorde cette grâce. Vous voyez.
et pour toute votre vie. Et ainsi, l'enfant Jésus sera très honoré et il vous donnera de nombreuses grâces. Les rois mages sont ensuite repartis par un autre chemin. Le bon Dieu leur a fait comprendre que le roi Hérode voulait tuer l'enfant Jésus et qu'il ne fallait pas aller l'annoncer. Ils sont partis par un autre chemin. Et plus tard, l'apôtre saint Thomas est allé dans leur région pour évangéliser. Et il a trouvé donc ces rois mages qui sont venus lui dire qu'ils étaient venus adorer quand l'enfant était né parce qu'ils ont été conduits par une étoile. Ils se sont fait baptiser, ils ont fait connaître toutes ces merveilles autour d'eux et ils sont morts martyrs. On les a tués pour la foi. Et actuellement, les reliques des rois mages se trouvent dans une ville d'Allemagne, à Cologne, où tous les pèlerins peuvent vénérer, peuvent prier sur ces reliques des rois mages. Voilà. Eh bien, demandez cette grâce à la Sainte Vierge et aux rois mages. Demandez-leur, maintenant ils sont au ciel, ils vous regardent, ils nous regardent tous. Demandez-leur aussi que nous offrions tous les jours ces cadeaux à l'enfant Jésus. La charité, la ferveur, la piété, le recueillement et l'esprit de sacrifice. Faites des sacrifices pour l'enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si l'on pouvait entendre de nos propres oreilles ce que les saints et les anges du ciel voudraient nous dire, qu'est-ce qu'à votre avis ils voudraient bien nous dire? Ou s'ils parlaient tous ensemble, on ne s'entendrait plus. Il y en a tellement. Mais s'ils parlaient tous ensemble, d'une façon cadencée, en disant la même chose, qu'est-ce qu'ils nous diraient? À votre avis? Eh bien, il me semble qu'ils nous diraient ceci. Ô vous qui êtes sur la terre, vous qui avez été créés comme nous avons été créés par Dieu, n'oubliez pas votre bonheur essentiel. Voilà ce qu'il nous dirait. Mais alors, qu'est-ce que c'est notre bonheur essentiel? On veut tous le bonheur. On est tous d'accord de rechercher le bonheur. Hein? Tous les gens sur la terre le recherchent. Tous. Il y en a de ceux qui se marient en se disant, ah, quand on sera marié, ce sera un bonheur parfait. Ils cherchent le bonheur. Il y en a d'autres qui disent, ah, moi, il faut que je trouve une belle profession, un travail qui me plaît, ah, avec ça, ce sera mon bonheur. Ils cherchent tous le bonheur. Mais eux nous disent, n'oubliez pas le bonheur essentiel. Alors, est-ce que ce n'est pas le bonheur essentiel, tout ça? C'est quoi le bonheur essentiel? Alors, il faudrait leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils nous répondraient? Qu'est-ce que c'est le bonheur essentiel? Le bonheur essentiel, c'est d'être uni à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui fait la joie de tous les saints? Qu'est-ce qui fait la joie de tous les anges du ciel? Il n'y a rien qui puisse être au-dessus de ce bonheur-là. Un bonheur qui ne pourra jamais plus leur être enlevé. Sur la terre, il y a quelques petits bonheurs, mais avec ces petits bonheurs, il y a aussi bien des difficultés, il y a bien à souffrir, voyez. Celui qui a trouvé son métier dans lequel il se complaît, il trouvait son bonheur, mais il a bien à souffrir aussi, c'est pas toujours facile, il y a des moments pénibles, voilà, etc. Tandis que le vrai bonheur, c'est d'être uni au bon Dieu. Et comment est-ce qu'on peut être uni au bon Dieu? On est bien d'accord? Alors on est d'accord. Ceux qui sont au ciel, ils sont unis au bon Dieu. Ça va, mais nous sur la terre, comment on peut être uni au bon Dieu? Eh bien, par la vertu de charité, par l'amour. Oui. Vous savez, vous aimez vos parents, il y a des gens que vous aimez. Quelqu'un qu'on aime, on voudrait être comme lui, on voudrait lui ressembler, on voudrait faire comme lui, on voudrait penser comme lui, on voudrait avoir les mêmes pensées que lui. Voyez ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui aime quelqu'un veut être, il veut lui être semblable. Voilà. Il veut lui ressembler, il veut lui être semblable. Eh bien, les anges au ciel, ils sont si près de Dieu qu'ils la lumière de Dieu rejaillit en eux. Ils sont tellement unis en Dieu qu'ils sont presque confondus en Dieu, tellement ils sont unis à lui. Voyez par exemple, quand le forgeron prend un morceau de fer, c'est souvent gris, noir, rouillé, froid, et il met dans le feu. Au bout d'un moment, quand il ressort le fer du feu, le feu, il est rouge comme le feu. Le fer, il est rouge comme le feu. Il a presque la même couleur. Il ressemble, voyez, parce qu'il a rapproché du feu le fer qui était noir et froid. Eh bien, il est chaud et de la même couleur. Voyez, eh bien, nous aussi, si nous nous rapprochons de Dieu, nous ressemblerons de plus en plus à Dieu. Et nous l'aimerons de plus en plus. Et ainsi, nous nous unirons à lui. Voilà. Et nous pouvons déjà nous unir sur la terre au bon Dieu. Et il mérite bien, voyez, par cette vertu de charité, par cet amour, et il mérite bien qu'on l'aime. Aujourd'hui, voyez, nous commençons le mois de juin. Le mois de mai, c'était un mois qui était consacré à la Sainte Vierge. Voilà, on a eu une dévotion spéciale pendant le mois de mai à la Vierge Marie. Et maintenant, c'est le mois de juin. Alors, c'est le mois du Sacré-Cœur. Il nous faut avoir une dévotion envers ce cœur. Et qu'est-ce que ce sera cette dévotion envers le Sacré-Cœur de Jésus? En quoi ça va consister? Comment on pourra exprimer cette dévotion envers le cœur de Jésus? C'est quoi la dévotion? Si on vous demandait, hein, qu'est-ce que vous pensez que c'est de la dévotion? Vous dites que vous avez de la dévotion, mais c'est quoi la dévotion? La dévotion, ça vient du mot dévoué, voyez. Quand on est dévoué à quelqu'un, eh bien, on est tout soucieux. On est dévoué à quelqu'un qu'on aime. Dévoué, ça veut dire quoi? On veut rendre un culte au Sacré-Cœur, à la Sainte Vierge, à celui à qui on est dévoué. Qu'est-ce que c'est rendre un culte? Oh, des mots un peu compliqués si on commence à chercher. C'est quoi rendre un culte? Eh bien, voyez, ça vient du mot cultiver. Qu'est-ce qui fait le paysan, l'agriculteur? Il cultive la vigne. Ça veut dire quoi? Il soigne sa vigne, il s'occupe de sa vigne, il entretient la vigne, il la nourrit, etc. Et de ce travail, il en reçoit des fruits. Il cueille le raisin à l'automne. Il y en a d'autres qui cultivent les champs, cultivent les pommes de terre, ils cultivent les carottes, voyez. Et donc, ils soignent ces légumes, ils les entretiennent, ils les nourrissent. Et bien, ça vient de ça, le culte. Cultiver la dévotion au Sacré-Cœur, c'est garder en nous les pensées du Sacré-Cœur. Essayer de nourrir en nous cet amour pour Jésus, de l'entretenir cet amour, d'avoir des petites pensées d'amour, voyez, d'exprimer extérieurement cet amour que l'on a pour Jésus. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment l'amour de Jésus? Est-ce qu'on essaie d'entretenir en nous ces pensées d'amour envers le Sacré-Cœur? Est-ce qu'on peut dire qu'on aime vraiment le Sacré-Cœur? Oui, on a les statues du Sacré-Cœur à la maison, on a des tableaux, mais est-ce que vraiment on aime le Sacré-Cœur? Alors, ce mois-ci, il faudra qu'on essaie de s'appliquer à aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Voyez. Pourquoi il faut aimer le Sacré-Cœur de Jésus? Eh bien, parce qu'il nous aime. Il nous attend, en fait, il nous entend manifester combien il nous aime, voyez. Il a voulu cette dévotion au Sacré-Cœur pour nous montrer, justement, combien il nous aime. Voyez, quand vous avez peur, qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous avez été effrayé, le cœur y bat plus vite que d'habitude. Ou bien quand vous aimez quelqu'un, que vous savez que votre, par exemple, que votre tante ou votre parrain va venir, et vous vous réjouissez, eh bien, si vous remarquez, votre cœur, il bat plus vite. Voyez? Le cœur, il est sensible à ça. Eh bien, Jésus, justement, il a voulu nous montrer combien il nous aimait en nous révélant son Sacré-Cœur. Quand Jésus était, avant de mourir, le jeudi saint, les apôtres étaient réunis autour de Jésus et il a célébré la première messe. Puis à un moment donné, Jésus avait dit à ses apôtres, « Cette nuit, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir. » C'était terrible ça quand il a dit ça. C'était une frayeur pour les apôtres. Et puis, les apôtres auraient bien voulu savoir qui c'était. Alors chacun a demandé. Et puis, Saint Jean était à côté de Jésus. Et Saint Pierre demande à Saint Jean, « Demande-toi, toi tu es... Il t'aime bien, toi. Demande de lui voir. Qui c'est ?» Alors Saint Jean demande à Jésus, « Qui c'est qui va vous trahir ?» Et Jésus fait comprendre à Saint Jean qui c'est qui va le trahir. « Celui qui mettra la main avec moi, à qui je donnerai la pomme du pain, il me trahira. » Alors Saint Jean avait compris la peine de Jésus. Saint Jean, il a mis la tête de la poitrine de Jésus. Et là, il a entendu battre le cœur de Jésus. Vous voyez, il a entendu battre le cœur de Jésus de douleur, d'un côté, de savoir qu'il y en a un qui le trahirait, et d'amour aussi, d'amour pour ses apôtres, d'amour pour les créatures. Vous voyez, le cœur de Jésus aussi, eh bien, il battait plus fort que d'habitude quand il aimait laver de la douleur et quand il aimait. Voilà ce cœur de Jésus qui nous aime. Le cœur, voyez, c'est bien, c'est l'organe qui exprime l'amour qu'on a. On dit de quelqu'un, celui-là, il a un bon cœur, parce qu'il est bon avec les autres. Ou bien celui-là, il a un cœur dur, terrible celui-là, un cœur dur comme la pierre. Voyez, on dit le cœur, quand il n'a pas d'amour, il a un cœur dur. Quand il est bon, quand il a la charité, c'est un bon, il a bon cœur, il a le cœur dans la main. Voilà. Alors il nous faut vénérer ce sacré cœur de Jésus. Voyez, il avait dit un jour à Sainte Marguerite Marie, il avait apparu à Sainte Marguerite Marie qui était religieuse, puis il lui a dit, vois ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour de tant d'amour, il ne reçoit que de l'indifférence. Les gens sont indifférents, ils sont sans amour, ils sont sans attention. Alors que ce cœur les a tant aimés. Et nous alors, est-ce que Jésus pourra dire la même chose de nous? Est-ce qu'il pourra dire, un jour, quand nous paraîtrons devant Dieu, « Eh bien vous, voilà, vous saviez que mon cœur vous a tant aimé, et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Vous avez été indifférent? Vous avez cherché votre bonheur ailleurs? Eh bien, non, il ne faudrait pas qu'il puisse nous dire ça. Alors aujourd'hui, nous allons demander, hein, au Sacré-Cœur et puis à la Sainte Vierge, de nous aider à avoir un culte au Sacré-Cœur, c'est-à-dire de cultiver en nous des pensées envers le Sacré-Cœur, des pensées d'amour pour le Sacré-Cœur. Lui dire souvent merci, lui dire d'un fois dans la journée, dites cette petite invocation, « Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. » Ça vous pouvez dire en allant à l'école, en rentrant à la maison, vous dites ça 4, 5, 6 fois, 10 fois. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Vous verrez, j'ai connu quelqu'un qui disait ça très souvent, à qui la maman avait appris de dire ça. Eh bien, il s'était, sans se rendre compte, le bon Dieu avait augmenté en lui la vertu de charité. Il était devenu tellement bon que tout le monde l'aimait, mais lui ne s'était pas rendu compte, alors qu'il était terrible quand il était jeune. Eh bien, sa maman lui dit, tu dis ça très souvent. Il a dit ça très souvent et il est devenu très bon, sans qu'il se rende compte. Le bon Dieu l'a écouté et il lui donnait souvent des petites augmentations de la vertu de charité. Alors ça vaut la peine, voyez. Jésus nous dit, demandez et vous recevrez. Justement, si vous faites cette petite invocation, Jésus va vous donner. Voilà, d'augmenter en vous cette vertu de charité. Et c'est l'essentiel. Puisque la charité va nous unir à Dieu et que le seul vrai bonheur, c'est d'être uni à Dieu. Alors on peut déjà être uni à Dieu sur la terre et pour être définitivement uni à Dieu au ciel. C'est ce qu'il nous faut y arriver. Alors demandons ça au Sacré-Cœur. Hein. Pour l'offertoire, vous prendrez le chant Je veux t'aimer sans cesse. Pensez un peu à ces paroles. Vous dites, oui, je veux t'aimer sans cesse. Je veux, oh mon Dieu, vous aimer sans cesse. Il faut que nous l'aimions. C'est ce qui nous unira à Dieu et ce sera notre vrai bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous avez écouté cette parole de l'Évangile où Jésus, où cette femme disait à Jésus, « Oh, heureux la maman qui vous a porté et qui vous a nourri de son lait. » Et Jésus répond, « Bienheureux ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la pratiquent. » Voilà, vous arrivez à la fin de cette année scolaire. Vous allez entrer dans cette période qu'on appelle les vacances. Alors vous êtes réjouis, vous êtes tout heureux et vous les méritez. Vous avez bien travaillé, il paraît que vous avez fait de très bons examens. Alors je vous félicite, vous méritez de bonnes vacances. Vous aimeriez être heureux pendant ces vacances, hein? J'espère que ce soit des vacances qui ne soient pas tristes. En général, c'est toujours heureux les vacances. Eh bien, c'est vous qui ferez en sorte que ces vacances soient heureuses. Et comment faire? Il y a certaines choses à observer. Les vacances, ce n'est pas s'amuser du matin au soir et du soir au matin. Il y a, vous aurez des moments détente, des moments pour jouer. Mais seulement, il ne faut pas oublier que c'est du temps que le bon Dieu vous donne. Pourquoi? Pourquoi le bon Dieu vous donne ce temps des vacances? Toujours pour vous sanctifier. Il faut toujours se rappeler cela. Vous avez ce temps des vacances pour vous sanctifier. Oh, vous savez, autrefois, les enfants de votre âge, c'était pour aller travailler. Tous les parents avaient des fermes, avaient des champs, des vignes, des alpages. Alors, quand ils n'avaient pas l'école, il fallait aller aux champs, aux vignes, aux alpages, faire les foins, s'occuper du bétail. Alors, ils travaillaient toute la journée, quand ils n'avaient pas l'école. Bon, vous n'avez pas les mêmes conditions qu'eux. Cependant, voilà, il faudra que pendant ces vacances, vous pensiez aussi aux autres, pas qu'à vous. Voyez ? Alors vous aimerez aider un peu vos parents, aider votre maman pour le ménage, déjà ranger vos affaires, que ce soit propre, que ce soit pas vos parents qui doivent le faire. Voyez, ça c'est déjà de la charité. De penser aux autres. C'est quoi la charité? C'est s'oublier pour penser aux autres. Alors vous prendrez, voyez, vous aurez plaisir à mettre de l'ordre dans vos affaires, à aider vos parents à faire le ménage ou quelquefois à faire le repas, faire les commissions. Vous ferez ça volontiers. C'est ce que faisait l'enfant Jésus. Qu'est-ce que faisait l'enfant Jésus lorsqu'il était à Nazareth dans la maison de Saint-Joseph et de la Sainte Vierge? Il aidait. Il aidait la Sainte Vierge, il aidait Saint-Joseph, à l'atelier, il allait faire volontiers les courses. Voilà. Eh bien, vous ferez un peu comme lui, vous imiterez. Et pendant les vacances non plus, il ne faudra pas mettre le bon Dieu en vacances. Vous voyez ? Il faudra aussi le prier. Vous avez encore plus de temps, alors occupez-vous bien de lui. Pensez à ce que dit Jésus dans cet évangile. Vous voulez être heureux pendant ces vacances ? Eh bien, si vous voulez être heureux, écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique. Voilà. Tâchez d'acquérir la vertu. Toujours vous maîtriser. Voyez, ne pas vous laisser aller à n'importe quoi. La vertu de bonté, de charité, la vertu d'humilité aussi. Voyez, là vous aurez beaucoup de temps pour jouer entre vous, entre les frères et sœurs. Là aussi, apprenez à être bon joueur. Voilà. Quelquefois, eh bien, vous perdrez. Sachez perdre. Voilà, j'ai perdu, ben oui, voilà, je ne suis pas le meilleur, quelquefois. Pour en savoir aussi, pas pour pas irriter les autres. Voilà, ça c'est la délicatesse, voilà, de l'âme chrétienne. Et vous êtes tous appelés à devenir des saints et des saintes. Vous voulez aller au ciel, eh bien vous savez qu'au ciel il n'y a que des saints. Alors si vous ne devenez pas des saints, vous ne pourrez pas entrer au ciel. Mais il faut commencer maintenant, voyez. Voilà. Alors vous ferez attention, vous aurez des égards pour les autres, pour vos parents. Ne rendez pas la vie plus dure à vos parents pendant les vacances. Voilà, vous êtes plus souvent à la maison. Alors au contraire, le matin, aidez, faites bien vos chambres. Voilà, rangez vos jouets. Et puis, proposez de rendre service à papa et à maman. Et vous verrez, vous serez content. Vous serez très content. Puis vous apprendrez aussi un peu à développer les facultés que le bon Dieu vous a données, de vos mains. votre intelligence, votre organisation, tout ça, voilà, ça s'apprend déjà maintenant. Voilà. Et puis aussi, vous aimerez aller faire des petites visites à la Sainte Vierge. Vous savez ce que faisaient les autres, les saints autrefois quand ils allaient garder le bétail? Alors ils mettaient des petites statues de la Vierge dans les creux des arbres, puis alors ils allaient dire bonjour à la Sainte Vierge de temps en temps, ils allaient réciter quelques « Je vous salue Marie », voilà, puis après ils allaient garder les vaches, ou bien ils allaient faire un petit jeu entre tous les bergers qui se retrouvaient. Mais ils n'oubliaient pas la Sainte Vierge, ils aimaient la Maman du Ciel. Alors vous ferez aussi, voyez, tâchez de ne pas l'oublier Notre-Dame, la Sainte Vierge. Et puis si vous partez en promenade, puis que vous voyez des crucifix sur les chemins, sur les bords des routes, arrêtez-vous un peu, saluez Jésus. Ne l'oubliez pas, mettez pas Jésus de côté. Et alors vous passerez de belles vacances, vous verrez. Si vous savez pratiquer la vertu d'obéissance, pensez à Jésus, qu'est-ce qu'il a été obéissant? Toute sa vie, toujours été obéissant. Jamais il a manqué à cette vertu, jamais. Alors vous aussi, vous verrez, la pratique de la vertu va vous rendre heureux. Voilà quelques recommandations pour ce temps dans lequel vous allez entrer pendant cet été, ce temps des vacances, voilà. Vous avez des petits frères et des petites sœurs, et bien là aussi, quelquefois, ils vous feront du tort, ils vous voleront des choses, soyez miséricordieux, voilà. Ne rendez jamais le mal pour le mal, mais rendez toujours le bien pour le mal. Voilà ce que le chrétien doit faire. Jésus nous a montré l'exemple, et bien nous devons suivre Jésus, qui est notre modèle. Voilà, tâchez de toujours faire le bien. Avec tout le monde autour de vous. Soyez avec les autres comme vous voudriez que les autres soient avec vous. Alors vous n'aimerez que tout le monde soit bon et gentil avec nous. Alors il faut l'être avec les autres. Pensez-y, hein. Et puis, il y aura aussi des belles fêtes cet été. Il y aura la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet. Pensez-y, portez vos scapulaires. Toujours bien sur vous, jour et nuit. La Sainte Vierge protège ceux qui portent le scapulaire. Et puis, vous honorerez Notre-Dame tout spécialement cette fête. Et puis il y aura encore bien d'autres fêtes. Il y aura le 15 août, grande fête de la Sainte Vierge, fête de l'Assomption, Notre-Dame qui monte au ciel, qui va recevoir la place, la récompense promise, voyez, à tous ceux qui seront fidèles. Et puis il y a d'autres fêtes aussi. Vous irez peut-être au camp cet été, quelques-uns parmi vous. Là aussi, apprenez à vivre chrétiennement. Voyez. Profitez de ce temps que le bon Dieu vous donne. Il ne faut pas dire, maintenant c'est les vacances, on aurait tout promené. Non, non. Les vacances, c'est que vous n'avez plus les cours, comme pendant le reste de l'année, mais il faut quand même se sanctifier. Voyez. Le bon Dieu vous donne ce temps pour cela. Voilà, et bien vous confiez ces vacances aujourd'hui à l'occasion de cette messe. Cette messe, nous la dirons pour remercier le bon Dieu, la Sainte Vierge, de toutes les grâces que vous avez reçues, tout ce que vous avez reçu, et vous allez aussi prier pour tous ceux qui se sont dévoués pour vous, pour vos maîtresses, pour M. Rosis, qui est le directeur de l'école. Vous allez prier dans cette messe pour tout cela, pour vos parents aussi, qui font beaucoup de sacrifices. Vous savez ce que ça coûte comme sacrifice d'aller dans cette petite école. Vous voyez, ils font de grands efforts, vos parents, pour cela. Alors, il faut aussi être reconnaissant. Eh bien, nous allons prier aujourd'hui pour tout cela. Vous voyez, pour leur demander au bon Dieu une grâce pour eux. Voilà. Une grâce aussi de toujours pouvoir grandir, de toujours pouvoir se sanctifier davantage. Et puis, nous allons aussi confier ce temps des vacances à la Très Sainte Vierge. Qu'elle vous accompagne, qu'elle vous conduise, qu'elle soit toujours avec vous pour vous protéger, pour vous aider à bien profiter de ce temps. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.